Chapitre 15. Ce qui, jusqu'à un certain point, rassura Geneviève, ce fut que déjà, plus d'une fois, elle avait vu la femme de chambre de sa tante lui tomber ainsi sur le dos, avec ses regards fureteurs et ses manières inquiètes. Cependant, elle n'avait jamais remarqué en elle autant d'étonnement et de défiance. Mais c'était probablement parce qu'elle se trouvait maintenant en danger qu'elle s'apercevait de ce qui, jusqu'à ce moment, ne l'avait pas frappée. Quoi qu'il en fût, elle devait se tenir sur ses gardes et, pour sa prochaine entrevue avec Faré, prendre des précautions. Le lendemain, bien qu'elle n'eût rien à faire sous les magnolias, elle voulut y revenir. Ce serait un moyen de voir si l'espionnage d'Adélaïde continuait et, en même temps, s'en serait un pour le dérouter. En ne trouvant jamais personne, cette vieille curieuse finirait par se fatiguer à la longue. N'étant plus dans les mêmes conditions que la veille, elle put donner toute son attention à ce qui se passait autour d'elle, et comme elle avait l'oreille fine, elle ne tarda pas à entendre derrière elle un bruit de pas étouffés. Assise comme la veille au bord du mur, elle n'eut garde de tourner la tête et elle resta à regarder clapoter l'eau comme si elle prenait un plaisir extrême à cette contemplation. Le temps s'écoula, elle ne bougea pas. Assurément, on devait croire qu'elle attendait. Qui cela serait la première? Ce ne serait pas elle. Commodément installée à la place même où elle avait été si heureuse, pouvant rêver en toute liberté et se souvenir, elle n'avait pas de raison pour s'impatienter ou se lasser. Il n'en devait pas être de même pour Adélaïde, restée debout derrière un arbre où elle n'osait pas faire un mouvement. Cette idée du supplice qu'elle imposait à son espionne amusa Geneviève et lui suggéra la fantaisie de pousser la plaisanterie plus loin. De l'endroit où elle était embusquée, Adélaïde ne voyait rien de ce qui se passait au bas du mur, dans le lit à sec de la rivière. Elle ne pouvait donc savoir s'il y avait quelqu'un de caché là que par les mouvements de celle qu'elle épiait. Ce fut là-dessus que Geneviève disposa son plan. Tout à coup, elle se mit à parler à voix retenue, en se penchant en avant, comme si elle s'adressait à quelqu'un placé en contrebas. Et instantanément, elle entendit un fracas derrière elle. Adélaïde, qui sortait brusquement de sa cachette pour voir quel était celui qu'elle n'avait pu surprendre, Geneviève ne se retourna pas et continua de parler, mais sans qu'on pût distinguer ses paroles. Une musique, voilà tout. Adélaïde arrivait au mur, où, du coin de l'œil, Geneviève souriante l'observait. En voyant la mine désappointée et stupide de la femme de chambre, qui ne trouvait que des cailloux au bas du mur, Geneviève fut obligée de faire un effort pour ne pas éclater de rire. « Je croyais que vous parliez !» dit Adélaïde, qui perdit un peu la tête. « Mais oui !»« À qui ?»« À personne, à moi !»« On ne parle pas ainsi !» Mais, au contraire, c'est mon habitude. C'est même pour cela que je viens ici. Cela m'amuse de parler à l'eau qui court. Elle emporte ce que je lui dis et ne le répète à personne. Puis, s'enhardissant, en voyant le désarroi qu'elle produisait dans l'esprit d'Adélaïde, elle ajouta « Vous croyez donc que je parlais à quelqu'un ? Mais à qui ? Justement, c'était justement ce que je me demandais. » Est-ce qu'on se promène habituellement dans le lit desséché du Cérou ? Furieuse, Adélaïde tourna sur ses talons et rentra au château, tandis que Geneviève se réjouissait en se disant « Elle n'y reviendra pas, et dans 15 jours, nous serons tranquilles. » Elle ne se pressa pas de rentrer, riant en elle-même du bon tour qu'elle avait joué à Adélaïde. Quand elle revint, elle trouva sa tante dans le fauteuil où elle l'avait laissée. « Eh bien, tu te plais au bord de la rivière ?» dit Mademoiselle de Puylaurens. « Vous saviez donc que j'étais au bord de la rivière ?» demanda Geneviève. « C'est Adélaïde qui vient de me dire qu'elle t'a trouvé, adressant des discours à l'eau qui court. Alors c'est comme cela que ça se passe avant de se marier ?»« Sans doute, ma tante. Rien ne peut m'être plus agréable que de voir que tu te rends à mon désir et que tu penses à Monsieur de Javerlac. » « Mais je ne pense pas à lui, ma tante. »« Comment, tu ne penses pas à lui ?»« Oh, pas du tout. »« Mais alors ?»« C'est-à-dire que je n'y pense pas comme vous l'entendez. »« Si je vous disais qu'il n'a pas occupé mes réflexions pendant que j'étais assise au bord de l'eau qui court, comme dit Mademoiselle Adélaïde, Je ne serai pas sincère. À la bonne heure. Oui, j'ai pensé à lui, beaucoup pensé à lui, m'efforçant d'apprécier les qualités que vous m'avez dit de chercher en lui et que j'ai cherchées, ma tante, mais sans les trouver. De sorte que ce que je vous disais quand nous avons parlé de lui, je vous le répète aujourd'hui, il ne me plaît pas. » Mademoiselle de Puylaurens fut stupéfaite et elle resta un moment silencieuse. « Tu ne le connais pas encore assez, » dit-elle. « Mais, ma tante, il me semble que ce n'est pas parce qu'on connaît quelqu'un qu'il vous plaît ou vous déplaît. »« Et pourquoi alors ?»« Ah, je ne sais pas. Il vous plaît parce qu'il vous plaît. Il vous déplaît de même sans raison. » »« C'est absurde. Peut-être, mais enfin, c'est ainsi. Au moins, c'est ainsi pour moi. Pendant le temps que M. de Javerlac a passé ici, j'ai fait ce que vous m'aviez demandé. » Je l'ai étudié, et de même que je vous ai dit très franchement que je le trouvais beau garçon, de même je vous dis aujourd'hui tout aussi franchement que je crois que c'est un bon garçon. Eh bien, ce n'est pas parce qu'un homme est beau garçon et bon garçon qu'on l'épouse. Ah, et pourquoi l'épouse-t-on, je te prie? Mais parce qu'on l'aime, et je n'aime pas M. de Javerlac, et je ne l'aimerai jamais. C'est absurde! « Oui, ma tante, mais vous êtes trop bonne, trop juste, vous me témoignez trop d'affection pour vouloir que je devienne la femme d'un homme que je n'aime pas et ne peux pas aimer. Si vous tenez à me marier, ce n'est pas par amitié pour M. de Javerlac, c'est par amitié, par tendresse pour moi, pour que je sois heureuse. Pour qu'on ne puisse pas gaspiller la fortune que je te laisserai. Eh bien alors, vous ne tenez pas plus à M. de Javerlac qu'à un autre. C'est un mari que vous voulez me donner, un protecteur de votre fortune. Monsieur de Javerlac n'a pas certainement les qualités spéciales pour cet emploi qu'un autre remplirait tout aussi bien que lui, puisqu'il suffit pour cela, si j'ai bien compris ce que vous m'avez expliqué, d'avoir le titre de mari, ou plutôt que j'ai, moi, le titre de femme mariée. Les qualités spéciales de monsieur de Javerlac, c'est sa naissance, c'est son éducation, c'est sa famille, c'est sa fortune. Enfin, c'est tout ce qui fait de lui un mari que toute fille raisonnable serait heureuse d'épouser. Ses qualités seraient sans doute décisives si je l'aimais, mais comme je ne l'aime pas, elles n'existent pas pour moi. Peux-tu nier sa naissance? Non. Sa fortune? Non. L'honorabilité de sa famille, qui est à la tête de la noblesse du Midi? Je ne nie rien, ma tante. Je dis seulement que tout cela, dans la personne de M. de Javerlac, ne me touche pas. Alors, c'est du mariage que tu ne veux pas? Non, c'est du mari. S'il était vieux, s'il était laid, s'il était d'un rang au-dessous du tien, s'il t'avait vu sans émotion, si ce mariage était pour lui une affaire, je te comprendrais. Au contraire, vous semblez faits l'un pour l'autre, vous avez l'un et l'autre la jeunesse, l'un et l'autre la beauté. Son éducation, ses idées, ses principes peuvent inspirer toute confiance pour l'avenir. Il t'aime. Et moi, je ne l'aime pas, interrompit Geneviève. Il n'y a que cela, mais c'est quelque chose, c'est tout. Il l'a bien compris quand je le lui ai dit. Comment tu lui as dit? Que lui as-tu dit? Que notre mariage était impossible. Et qu'a-t-il répondu? Que j'avais joliment raison de ne pas vouloir d'un mari sans volonté qui n'osait lever la voix ni devant sa mère ni devant son précepteur, mais que, quand il aurait une femme pour le soutenir, il résisterait, qu'il en avait assez de l'existence recluse, très chic mais pas drôle, qu'une fois libre, nous nous amuserions et rondement, ni à Cordes, ni à Javerlac, mais à Paris ou bien à Vienne, où je voudrais, car je serais la maîtresse. Ce sont ses propres paroles que je vous rapporte, ma tante. Au reste, vous avez pu entendre que son dernier mot en partant a été pour me renouveler sa promesse, et rondement. Mademoiselle de Puylaurens fut stupéfaite, tandis que Geneviève triomphait du coup qu'elle venait de porter au rival d'Ernest.